bien vos montres. Il est pile 20h sur Radio G. Plaisir de vous retrouver enfin, mais cette fois-ci pour l'année 2022, pour cette saison 2021-2022 de Quasar on the Air, une fois tous les 15 jours sur Radio G 101.5, Radio du Maine-et-Loire, et c'est l'émission de Quasar, Q-U-A-Z-A-R, le centre lesbien, gay, bi, trans, intersexe, plus, d'Angers et du 49. On est heureux de vous retrouver. Véritablement. Alors, amis, cas contact pour la énième fois, bienvenue. Surtout, portez-vous bien, soyez prudents, mais ce ne sont pas aux lesbiennes, gays, bi, trans et intersexes qu'on va apprendre ce qu'est la réduction des risques depuis l'époque du VIH. Appliquez bien les mesures, le masque, les distanciations, l'aération, lavage des mains, et tout ira pour le mieux. Ce soir, alors, une émission de reprise, alors vraiment vent en poupe, avec trois invités. Très rapidement, je vous les présente. Dans quelques instants, Dominique Ganaille, nous allons parler des nouvelles conditions du don du sang à partir de mars prochain. Nous avons également parlé d'une association qui s'appelle le REST, le Réseau de Santé Trans, avec Raphaël Magnan qui est son co-président, et d'une décision qui est une grande victoire, qui date déjà un tout petit peu, mais il était important de revenir sur cette décision en tout début d'année 2022. Et puis, nous terminerons l'émission. Alors là, je vous conseille vraiment de rester avec nous. Nous allons parler de la PMA, de son application depuis que la loi a été votée. Nous allons parler de filiation, de discrimination, de comité de décision, mais surtout d'une bombe à retardement qui n'a pas été prise en compte. Et Philippe Régnier vous en dira plus, évidemment, dans quelques instants sur Radio G. Alors, on ne perd pas les bonnes habitudes en 2022, hein, je vous rassure, on les garde. Et pourquoi ? Parce que nous allons parler de l'agenda de Quasar ces prochains jours et prochaines semaines. Alors la permanence, c'est toujours chaque samedi de 17h à 19h, alors samedi 15, samedi 22 janvier. Attention, pas de permanence le 29. Et pourquoi ? Je vous le donne en mille et mille. Eh bien parce que c'est l'Assemblée Générale de Quasar. Alors, que les petits camarades qui nous écoutent et qui ont reçu leur convocation notent bien d'ores et déjà, ils vont recevoir la nouvelle information, à savoir que l'Assemblée Générale aura lieu à la salle d'Avier pour plus d'espace, pour être entre nous et ne plus avoir de problème d'être trop les uns sur les autres. Ça peut avoir du charme dans certaines autres conditions, mais en tout cas là, pas dans la période Covid. Donc, le samedi 29 janvier 2022, 14h30, Assemblée Générale Ordinaire de Quasar, à la salle d'Avier, boulevard du même nom. Notez bien, samedi prochain, le 15 janvier, à 15h, ce sera un nouveau numéro de Transat, le groupe de parole pour les personnes transgenres, agenres et non-binaires, par et pour elles. Allez, on entre dans le vif du sujet avec cette émission spéciale pour commencer sur le don du sang. Nous rejoignons en direct Dominique Ganaille. Bonjour.
Bonjour.
Alors Dominique, toi tu es, on va te présenter ainsi, un membre d'ACT UP Paris et tu as, sur la question du don du sang, déjà depuis de très nombreuses années, été actif pour la fédération LGBTI+, à l'époque, sur cette question. Mais ce que je voulais faire en t'invitant, c'était reparler un peu de ce changement qui est annoncé pour mars prochain concernant le don du sang. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton parcours, toi, dans les associations et cette thématique VIH et don du sang?
Oui, alors effectivement, à l'époque, j'étais en charge de toutes les questions de prévention et de réduction des risques à la Fédération LGBT. Et à ce titre, quand il y a eu en 2015 la mise en place d'un groupe de travail à la Direction Générale de la Santé pour ouvrir aux personnes gays le don du sang. J'y ai participé activement. Ce groupe de travail a été ensuite pérennisé et installé en comité pérenne de suivi. En réalité, il s'est déroulé, malgré ce que beaucoup de gens veulent bien dire, il s'est déroulé exactement ce qui avait été prévu et qui a été lancé à partir de 2015, avec des étapes qui respectaient à chaque fois un certain nombre de mois entre les étapes suivantes qui s'additionnaient les unes au bout des autres, avec pendant ce temps-là des évaluations pour savoir si ça correspondait bien au modèle mathématique sur lesquels on s'était basé pour se mettre tous ensemble d'accord, et surtout garder un équilibre qui avait été en fait le fil rouge du groupe de travail. L'équilibre en question était que il ne fallait pas amoindrir la sécurité des personnes qui recevaient les dons et permettre de réduire le ressenti discriminatoire d'un certain nombre d'autres qui souhaitaient offrir leur sang, et notamment les personnes gays.
Alors, on rappelle hein, que c'était bien sur le ressenti discriminatoire, puisque à l'époque, quand même, la prévalence faisait qu'il était nécessaire de prendre un certain nombre de précautions, et c'est ce que combattaient certaines structures. La fédération s'est toujours posée sur cette pierre angulaire de, effectivement, lutter contre le sentiment de discrimination, mais garder une sécurité maximale. On est bien d'accord.
Tout à fait, et t'as bien fait d'insister sur la question, mais j'avais directement employé le terme ressenti, parce que effectivement ça n'était pas une discrimination, puisque en réalité dans le don du sang, par exemple, les personnes qui étaient allées du temps de la vache folle au Royaume-Uni, il y avait déjà un certain nombre de restrictions qui sont faites pour que les personnes qui reçoivent le sang puissent le recevoir en toute sécurité.
Alors,
Il s'agissait en réalité de continuer à rester dans cet équilibre, de progresser pour que de nouvelles catégories de personnes, en l'occurrence les gays, puisque pour le coup ça ne concernait pas les lesbiennes, puissent donner leur don du sang. Et tu le rappelais effectivement tout à l'heure, à l'époque la prévalence était de 1 pour 200 chez les gays par rapport aux hétérosexuels. Et il y a eu aussi quelque chose qui a été intéressant et passé relativement sous silence, c'est que du même coup, quand on a commencé à ouvrir aux gays ce don du sang, on a démarré à 12 mois hein, pour baisser progressivement, on est passé par une étape où on a augmenté pour les hétérosexuels multipartenaires le délai d'attente. Et petit à petit, en fait, ils en avaient un, mais je me rappelle plus où il était. Enfin, il était passé à 6 mois du temps où le nôtre a été de 6 mois avant de passer à 4, de façon à ce que petit à petit les choses s'alignent, un peu comme des planètes, on pourrait dire, et qu'on arrive à quelque chose qui effectivement mette les gens sur le même pied d'égalité. Et en réalité, l'objet, c'était que ça n'était plus le fait d'être gay ou pas qui permettait ou pas de donner son sang, mais c'était d'avoir du multipartenariat, d'avoir des relations sexuelles en multipartenariat ou non.
C'est ça. Alors, puisque tu l'as évoqué, je rappelle que c'est Dominique Ganaï qui est notre invité au téléphone pour parler de la question du don du sang avec les nouvelles applications en mars. Tu l'as évoqué, mais j'ai quand même regardé sur l'établissement français du sang toutes les contre-indications. Et c'est une page entière, sinon deux. Je vais quand même les rappeler parce que je crois qu'on les connaît pas bien, toutes ces conditions-là. Il y a une question d'âge entre 18 et 70 ans avec une question de poids et le fait qu'après 60 ans, eh bien, le premier don est soumis à une appréciation. Ensuite, les hommes peuvent donner 6 fois par an, les femmes 4 fois, et il faut respecter un délai de 8 semaines minimum entre chaque don. Alors, l'établissement français du sang insiste que si certaines mesures sont définitives, donc on va dire interdiction de formelle et complète, il insistait sur le fait que 80% des ajournements du don étaient temporaires, hein, avec ces questions de délai. Il y avait des contre-indications liées aux actes de soins. Alors, c'était tout ce qui était prise de traitement d'antibiotiques qui n'était pas arrêté au moins depuis 2 semaines, la prise de certains médicaments avec des noms bien précis, on va pas les détailler maintenant, une infection ou se sentir en fièvre, c'était contre-indication. Contact avec une personne atteinte de maladies contagieuses, fort heureusement, oui, contre-indication. Des antécédents du paludisme, des vaccins de moins de 4 semaines, des interventions chirurgicales ou des examens endoscopiques dans les 4 mois, les derniers 4 mois. Les soins dentaires avec un risque de passage de bactéries. Des infections actives transmissibles par le sang. Alors là, on est en plein dedans. C'est tout ce qui va être hépatite virale, syphilis, infection VIH, infection avec un virus qu'on connaît beaucoup moins, mais dans d'autres pays, oui, c'est le fameux HTLV, la maladie de Chagas et autres. Il y a les traitements par hormones de croissance avant 89. Ça, pas beaucoup de gens, à part les gens concernés, le sont informés. Les antécédents familiaux et la fameuse maladie à prion. Après, pour aller plus vite, les contre-indications liées aux pratiques personnelles, c'est-à-dire tout ce qui est tatouage, piercing, y compris les boucles d'oreilles, d'attendre moins de 4 mois, c'est contre-indiqué. L'histoire d'acupuncture, de mésothérapie, pareil, dans les 4 mois, et les antécédents de consommation de drogue et de substances dopantes. Enfin, il y avait les questions liées, les contre-indications liées au séjour dans un certain nombre de pays visités avec un délai de 4 mois, puis l'interdiction complète là, pour les personnes qui avaient été au Royaume-Uni entre 80 et 96 pour la fameuse période dite vache folle. Et on arrivait tout en bas de la liste aux contre-indications liées aux pratiques sexuelles, et c'est là que tout va changer. Alors qu'est-ce qui va changer très exactement? On n'aura plus le délai de 4 mois pour les gays et les bi, c'est bien cela?
Exactement. Alors en fait, on est passé d'une interdiction totale à une interdiction de 12 mois, puis de 6 mois, puis de 4 mois, et on va arriver à la période d'extinction pour avoir un alignement et ne prendre en considération que les pratiques qui présentent un risque ou pas. Et voilà.
Alors, la pierre d'achoppement qui va être quand même une discussion et certainement un mécontentement pour un certain nombre de gays, c'est le fait qu'il est clairement indiqué par le ministère de la Santé que les personnes qui seront sous PrEP, tu vas nous réexpliquer ce qu'est la PrEP, évidemment, elles ne pourront pas être incluses dans les conditions favorables de prise de don du sang.
Oui, alors la PrEP, c'est une prophylaxie pré-exposition. En fait, c'est une prise de traitement, une bithérapie anti-VIH quand on n'est pas séropositif pour protéger à 97-18% de l'acquisition de l'acquisition du virus.
Et on rappelle que cette PrEP est particulièrement destinée à ceux qui ne, pour des raisons X ou Y, qui n'arrivent pas à avoir d'autres moyens de protection comme le préservatif ou d'autres méthodes de protection, et que on est en train d'entendre que la PrEP va s'étendre également au public hétérosexuel. C'est bien ce qu'on a compris.
Bah, c'est déjà fait, hein, à l'heure actuelle. L'essai de la NRS, l'Agence nationale de recherche contre le sida et les hépatites, qui a suivi Hypergay, qui était le lancement de la PrEP, qui s'appelle Prévenir, a déjà inclus des personnes hétérosexuelles, même si elles sont en très petit nombre par rapport aux gays, et également d'ailleurs des personnes transgenres. Ce qui est important de rappeler, c'est qu'en réalité, les gens qui vont pousser des pieds d'orfraie à ce sujet, ils vont le faire un peu comme un coup d'épée dans l'eau. Enfin, moi, je considère que ce sera un coup d'épée dans l'eau, parce qu'en réalité, les gens qui prennent la PrEP, c'est des gens qui ont du partenariat multiple.
C'est ça.
C'est particulièrement destiné à ces personnes-là. Donc, en réalité, ils sont déjà, de fait, avec le délai d'attente par rapport aux dernières relations sexuelles de multipartenariat dedans. Donc, voilà.
Oui.
Pour moi, il n'y aura rien de nouveau.
Si c'est ça. Si ce n'est...
On ajoute dans la liste une contrainte supplémentaire, mais de fait, elle se chevauche avec une autre préexistante.
Déjà existante et qui n'a rien à voir avec la PrEP, mais qui a à voir sur le critère du multipartenariat. C'est bien ce qu'on dit.
Ah, exactement.
Voilà, c'est ça. Alors, globalement, l'application, nous dit-on, pour le 16 mars. Alors, dans la dernière minute qui nous reste, le ministère dit que c'est pour former très certainement les établissements de don du sang. Est-ce qu'on y croit à cette version ou on sent qu'il va y avoir des réticences encore plus fortes?
Il y avait déjà eu dans les précédentes étapes, le même argument avancé. En réalité, c'est parce qu'on est toujours un petit peu en retard dans ces choses-là. Voilà.
Oui, c'est l'explication. Et on rappelle.
En tout cas, c'est mon point de vue.
Oui, mais.
Pour passer des étapes de 12 à 6 mois et à 4 mois, on avait aussi eu les mêmes petits couacs, des retards.
On rappelle bien qu'en aucun cas les lesbiennes, du fait qu'elles soient dans la catégorie des personnes homosexuelles, elles ne faisaient l'objet et ne feront l'objet d'une impossibilité de prélèvement, sauf à être dans une des catégories qu'on a citées tout à l'heure, on est bien d'accord. Hein. Mais déjà, absolument. Les lesbiennes, c'était très important. Ce qu'on invite, surtout les personnes, lorsque ça sera en place, eh bien, c'est de nous contacter pour nous dire s'il y a des difficultés à Angers, à Cholet, à Saumur ou autre part, de façon à pouvoir être sûr et certain que ça commence bien et que le don du sang se profile sous les meilleurs auspices. Un grand merci Dominique Ganaille d'avoir été avec nous.
Je t'en prie.
Et très bonne soirée. J'ai cru comprendre, mon petit doigt m'a dit au ski, alors profite bien de la poudreuse.
C'est ça, merci beaucoup, elle est là.
Au revoir.
Avec le soleil. Merci, au revoir.
Alors on met le nez dedans complètement.
You are now listening to 103.5 Dawn FM. You've been in the dark for way too long. It's time to walk into the light and accept your fate with open arms. Scared? Don't worry. We'll be there to hold your hand and guide you through this painless transition. But what's the rush? Just relax and enjoy another hour of commercial-free music on 103.5 Dawn FM. Stay tuned.
Quasar Ranzier, la radio dans la radio, le nouvel album de The Weeknd, ce que le Canada nous donne de mieux, album Down Out Sacrifice. 20h17, vous ne bougez pas.
In a city where the winter nights don't ever sleep, so this life's always with me. The ice inside my veins will never bleed. Love. Every time you try to fix me, I know you'll never find that missing piece. When you cry and say you miss me, I'll lie and tell you that I'll never leave. But I sacrificed your love for more of the night. I tried to put up a fight. Can't tie me down. Through the toughest parts when you feel like it's the end, 'cause life is still worth living. Yeah, this life is still worth living. I can break you down and pick you up and fuck like we are friends. But don't be catching feelings, don't be out here catching feelings. 'Cause I sacrificed your love for more of the night. I tried to put up a fight. Can't tie me down. I don't wanna sacrifice for your love.
1.5 The Weeknd, Sacrifice. En tout cas pour nous, c'était vraiment pas un sacrifice.
Radio G 101.5 FM.
Poursuivons ce numéro de rentrée 2022 avec un nouvel invité au téléphone. Il s'agit de Raphaël Magnan. Bonjour Raphaël.
Bonjour.
Alors, vous êtes coprésident du REST, R-E-S-T, qui signifie Réseau de Santé Trans. Alors, on a voulu vous inviter d'abord pour découvrir le REST, qui est basé du côté de Rennes, mais qui est en train de se développer. Et puis aussi pour parler avec vous d'une décision sur laquelle on va revenir, et qui est vraiment une grande victoire, d'abord parce que ça concernait une de vos membres, et puis ensuite que cette décision dit quelque chose d'assez important, et on expliquera le contexte. D'abord, le REST, Réseau de Santé Trans, je crois qu'il est né en 2018. C'est quoi très exactement? Comment vous l'avez pensé et pour quelle utilité?
Alors, d'abord, c'est un réseau plutôt informel en 2017 et on s'est monté en association en 2018. Du coup, sur Rennes. La situation à Rennes et en Bretagne en général à l'époque, c'est que c'était l'accès aux soins pour les personnes trans était vraiment compliqué. C'était un peu un désert médical à ce niveau-là. Du coup, il fallait aller à Paris ou à Nantes pour avoir accès à une hormonothérapie.
Oui.
Donc, on a commencé, des personnes trans, des associations, notamment OS Trans. Et parallèlement, le planning familial qui a commencé à faire des formations à destination des médecins. Et les médecins ont commencé à se voir pour discuter de comment proposer une prise en charge. Et du coup, les personnes trans et les associations ont rejoint le projet très vite. Et du coup, on s'est monté en association en 2018. Donc l'idée, c'était de créer un réseau et pas un lieu.
Oui.
Pour que il y ait une offre de soins qui soit développée sur tout le territoire, avec des soins de proximité qui soient possibles. Et on travaille pas mal sur l'accès aux hormonothérapies.
Oui.
Depuis le début. Et on propose aussi des formations à destination des professionnels de santé. Donc, au début, il y avait principalement des médecins, enfin des professionnels de santé de Rennes et des alentours. Et effectivement, ça s'est développé. Maintenant, il y a des médecins adhérents d'un peu partout en France. Et il y a une antenne à Paris qui s'est montée, qui fait aussi partie du reste. Où, du coup, il y a des formations qui sont proposées à Paris aussi, par du coup, les trois associations parisiennes qui ont adhéré au reste. Donc, Outrance, l'espace santé trans et AcceptST.
Oui.
Voilà.
D'accord. Alors, pour qu'on soit bien clair, parce que nous, Quasar, on connaît bien, mais ceux qui nous écouteraient ce soir, qui auraient peut-être quelques notions ou pas du tout, est-ce que vous pouvez, selon votre approche au reste, réexpliquer ce qu'est un parcours transgenre, que ce soit pour une personne qui se définisse comme transgenre, agenre ou non-binaire, si elle veut mettre en place un parcours, tout en précisant qu'il y en a de multiples de parcours, mais grosso modo, quelles sont les principales voies? Ça commence comment et comment est-ce qu'une personne trans fait dès lors qu'elle veut entrer dans un parcours? Étape numéro 1, on parle de l'ALD, c'est bien ça?
On peut demander une ALD, ouais, c'est pas obligatoire.
Effectivement.
Ça fait partie des choses sur lesquelles on a travaillé pas mal au début, parce qu'il y avait pas mal de refus d'ALD par
les CPAM locales, enfin départementales.
Ouais. Oui. Et ça arrive toujours de temps en temps qu'il y ait des refus. Ça varie beaucoup d'un département à l'autre. Ou pour le coup, il y a des CPAM qui demandent des choses. Qui n'ont pas lieu d'être dans une ALD hors liste.
Alors pour dire les
des
choses,
attestations psy et
voilà, c'est ça, hein,
pour un certificat signé par plusieurs médecins.
Tout ce qui normalement depuis 2016-2017 ne peut plus être demandé, des CPM continuent à les exiger, ce qui est tout à fait anormal, quoi.
Oui, et en se basant en plus sur du coup les protocoles pour demander une entente préalable, qui est une démarche qu'il faut faire dans le cadre de certaines opérations,
oui,
par exemple.
C'est ça.
Voilà. Et du coup, ils ont calqué en fait ce qu'ils exigent pour les demandes d'ALD sur des ententes préalables. Ce sont deux démarches complètement différentes et du coup, il n'y a pas trop de logique là-dedans.
Oui.
Donc pour commencer un parcours de transition, c'est pareil, ça dépend, c'est super inégal sur le territoire. Il y a des endroits où c'est pas possible de commencer un parcours médical sans passer par un psychiatre, et il y a des endroits où les médecins exigent plus d'attestation psy.
Oui.
Pour commencer les hormones par exemple. Pour les opérations, c'est plus compliqué. En général, on a plus de mal à trouver des médecins qui ne demandent pas d'attestation.
Ça, c'est une réalité, hein. Vraiment sur beaucoup de départements en France, très compliqué.
Ouais.
Hein. Effectivement.
Et il y a aussi un enjeu en termes d'argent et de précarité, parce que les personnes trans sont une population plutôt précaire.
Oui.
Et que pour accéder aux hormones, c'est possible en étant pris en charge, mais pour opération type mastectomie ou augmentation mammaire, il y a toujours des dépassements d'honoraires.
C'est ça.
Qui sont en général plutôt élevés, et les possibilités de prise en charge par les mutuelles depuis le passage du contrat d'accès aux soins, qui du coup plafonne un peu les dépassements qui doivent être raisonnés. Ce qui est rarement le cas pour les chirurgiens plastiques. Les possibilités de prise en charge sont de plus en plus compliquées, en fait.
Donc, si on comprend bien Raphaël Magnan, qui est notre invité, vous êtes coprésident du REST, le réseau de santé trans. Vous proposez, oui, en tant que réseau, des formations sur l'hormonothérapie, tant en direction des personnes trans que des professionnels de santé. C'est bien ça qu'il faut comprendre.
Les formations sont surtout à destination des professionnels de santé.
D'accord.
Pour leur permettre de prescrire des hormones, en fait, concrètement. Et je crois qu'on avait un projet aussi de faire des formations à destination des personnes trans.
D'accord. Ok, on comprend bien l'intérêt.
Ouais. Hein,
on est bien d'accord. Question fatidique, est-ce qu'un médecin généraliste peut, en primo prescription, prescrire justement une hormonothérapie et la suivre?
Alors, pour les hormonothérapies dites féminisantes, oui. Il n'y a rien qui empêche les généralistes de faire des primo-ordonnances. Pour l'androtardyle, qui est le plus fréquemment utilisé dans les traitements masculinisants, parce que c'est ce qui est pris en charge par la Sécu, théoriquement, ce sont des spécialistes qui doivent faire la ordonnance. Des gynécos, urologues ou endocrinologues.
D'accord. Alors justement, vous évoquez le terme de gynécologue, et parmi vos membres, il y a une gynécologue qui a été attaquée par le Conseil national de l'Ordre des médecins, parce que justement, elle avait prescrit une hormonothérapie à une cliente. Et finalement, au bout du bout de la procédure, on fait court, hein, pour vraiment arriver à l'essence de la décision. Il y a le conseil, j'arrive plus à retrouver, non, c'est le conseil disciplinaire, on va dire cela comme ça, première instance, qui a, en 2021, produit une décision qui est vraiment en tout point remarquable, parce que ce sont trois victoires l'une sur l'autre, finalement, dans la même décision. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en 3 minutes de quoi il retourne très exactement dans cette décision très importante?
Alors, ouais, ce qui s'est passé, c'est que en 2019, il y a la mère d'une femme trans majeure,
oui,
qui avait 20 ans, qui a dénoncé au conseil de l'ordre médecin la gynéco qui avait prescrit des hormones à sa fille.
Oui.
Déjà, ça pose question que les parents d'une personne majeure puissent déposer une plainte, et que la personne trans en question n'a jamais été entendue par personne.
Voilà. Et on voit déjà l'orientation de la famille.
Ouais. D'abord, la gynéco a été entendue par le conseil départemental de l'ordre. qui a rendu un rapport qui disait qu'il n'y avait pas de problème dans sa pratique et que rien ne l'empêchait de prescrire des hormonothérapies. Et par-dessus ça, le Conseil national a choisi quand même de maintenir sa plainte et du coup l'a présentée à la chambre disciplinaire de première instance.
C'est le terme que je cherchais,
ouais,
chambre,
c'est bien ça. Oui. Et du coup, il y avait trois arguments dans la plainte du CNAM pour l'attaquer. Donc, elle ne respecterait pas son engagement de gynécologue qui l'obligerait à ne recevoir que des femmes, parce que ça n'existe pas. En fait,
ça c'est une vision de
cette
l'esprit.
Histoire. Les médecins peuvent recevoir n'importe quelle personne et
voilà. Enfin, ça, d'accord.
Donc, là, on note quand même que le CNAM du coup a statué sur le fait que ça n'avait pas de sens. Mais que, ils sont pas du tout revenus sur le fait qu'on parlait d'une femme trans et que.
C'est ça.
Enfin, du coup, la question se posait même pas.
Voilà.
Le deuxième motif de plainte, c'est que, ils considèrent que les traitements hormonaux devraient être prescrits uniquement par des endocrinologues. Là, on parle de progestérone et, d'œstrogène.
Oui.
Ce sont des traitements qui sont prescrits par les gynécologues très habituellement, par exemple, aux femmes cisménopausées.
Exactement.
Et la troisième, le troisième motif, c'était que elle ne respecterait pas les recommandations de la Haute Autorité de la Santé qui date de 2009, ce qui est quand même très vieux.
Voilà, oui.
Et de l'IGAS, du coup, l'Inspection Générale des Affaires Sociales de 2011, et les recommandations de 2015 qui sont en fait les recommandations qui concernent les équipes de la SOFECT.
Voilà.
Et donc, enfin, pas les personnes qui n'ont pas adhéré à la SOFECT, finalement, quoi.
Voilà, c'est ça.
Donc, c'est.
Laquelle SOFECT était une société savante regroupant des professionnels, ouais, et qui avait une position très, très psychiatrisante avec une obligation. En tout cas, elle avait bataillé, ouais, et elle avait vraiment fait du lobbying pour, et ça laisse des traces encore aujourd'hui, qu'il y ait deux ans de psychothérapie avant éventuellement de pouvoir attribuer une attestation ou pas à la personne pour qu'elle entame son hormonothérapie, ce qui était vraiment scandaleux.
Oui, c'est ça. Il y a toute une histoire aussi de commission pluridisciplinaire où,
c'est ça, oui,
où ce sont les médecins en fait qui décident les suites.
Voilà.
Qui décident en fait si les personnes peuvent transitionner ou pas, ce qui est pour le coup complètement contraire à part du réseau de santé où les professionnels de santé s'engagent à ne pas demander d'attestation psy.
C'est ça.
Et se baser sur l'autodétermination des personnes.
Donc au final, la chambre disciplinaire donne entièrement raison à votre membre et à cette gynécologue. Et donc, c'est...
Alors, pas entièrement.
Oui, mais...
Parce qu'ils sont quand même restés sur le fait qu'il fallait imposer un délai de réflexion. Et que du coup, il lui reproche d'avoir prescrit des hormones à la première consultation,
oui,
où
vrai,
elle a vu cette personne. Et en fait, ça ne se tient pas parce que la personne est venue avec des bilans. Parce qu'elle avait déjà vu des médecins avant.
Oui.
Et il y a tout un suivi. Imposer un délai de réflexion, ça n'a pas de sens parce que, en plus, on ne sait pas ce qu'ils veulent dire par délai de réflexion. Ils ont précisé à aucun moment combien de temps dure ce délai de réflexion,
c'est
en
ça,
fait.
Oui.
Et que sur les premiers mois d'hormonothérapie, il n'y a pas d'effet irréversible, en fait.
C'est ça. Donc ça ne tient pas de bout à bout.
Et du coup, ils sont restés là-dessus, donc elle a quand même un avertissement, ce qui est le degré le plus bas de ce qui
des sanctions possibles
faire en termes de des sanctions.
Ouais.
Et donc elle fait appel de la décision.
D'accord.
Parce que
c'était ma question qui arrivait. C'était ma question qui arrivait. Est-ce qu'il y aura une suite? Donc on vient de comprendre que effectivement, puisqu'elle fait appel de cette partie-là, effectivement, il y aura une nouvelle décision. Un grand merci, Raphaël Magnan. On note que le réseau de santé trans est basé à Rennes, que vous êtes contactable. Sur votre site très très bien fait, très clair, très propre et bien documenté, et qu'on peut vous saisir pour toute formation de professionnels, et que les professionnels de santé qui nous écouteraient, eh bien, pourraient tout à fait revenir vers vous. Un grand merci, Raphaël.
Merci à vous.
Et puis, bonjour aux Rennais. Hein. Ciao, bye.
Radio G. www.radio-g.fr.
On n'a pas les tours, de New York, on n'a pas de lumière de jour. 6 mois dans l'année, on n'a pas Beaubourg ni la Seine, on n'est pas la ville de l'amour. Mais bon, vous voyez. La fête. Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. Tu m'avais manqué. Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. Tu m'as préféré. Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. Tu m'avais manqué. T'es la plus belle. Ou t'es la plus belle. Paris m'appelle. Quand je veux rentrer chez moi. Quand le ciel gris et la pluie me mangent. Je vais mieux quand je te vois. Flagé Saint-Gilles, la gueule à qui je dois mon nom. Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. Tu m'avais manqué. Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. Tu m'as préféré. Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. Tu m'avais manqué. T'es la plus belle. Ou t'es la plus belle. Et qu'on ait à choisir un camp, ce serait le pire des cauchemars. Tout ça pour une histoire de langue. J'ai vécu mes plus belles histoires en français et en flamand. La mer c'est une advance. Mais que Bruxelles vous mename. Et si un jour elle se sépare, et qu'on ait à choisir un camp, ce serait le pire des cauchemars. Tout ça pour une histoire de langue. J'ai vécu mes plus belles histoires en français et en flamand. La merde est que mille vins. D'un que Bruxelles. Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. Tu m'avais manqué. Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. Tu m'as préféré. Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. Tu m'avais manqué. T'es la plus belle. Ou t'es la plus belle.
On ne l'oublie pas et on l'aime. Angel, Bruxelles, je t'aime. Quasar On The Air accueille son 3e et dernier invité. Et quel invité ? Parce que nous allons parler de procréation médicalement assistée, autrement dit de PMA. On va tout vous expliquer et c'est un point extrêmement important. Nous accueillons Philippe Régnier, qui est professeur de droit et spécialiste du droit de la famille. Bonjour Philippe.
Bonsoir.
Alors, on a décidé de vous inviter à double titre par ce soir, pour deux choses. D'abord pour nous parler du RAVAD et du comité de réflexion, et à travers ce comité de réflexion, d'un thème dont, justement, vous allez vous saisir, la procréation médicalement assistée, qui a été votée en 2021, qui est vraiment maintenant prise en compte sur le territoire avec des difficultés. On va justement en parler. L'important, c'est de nous nous parler effectivement de ce qui n'a pas justement été creusé et été vraiment dit dans la loi qui entre en vigueur. D'abord, parlons, si vous le voulez bien, Philippe, du RAVAD, du réseau d'assistance aux victimes d'agression et de discrimination. Voilà, RAVAD, l'acronyme pour réseau d'assistance aux victimes d'agression et de discrimination. C'est né quand et c'est quoi exactement le RAVAD ?
Alors, c'est donc une association loi 1901. Elle a été créée en 2005 et elle a pour objet, donc, comme son nom l'indique, hein, d'assister les victimes d'agression, de discrimination, et essentiellement, principalement, à raison de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre, mais aussi de leur état de santé, et son objet est de leur apporter une aide qui peut aussi bien être psychologique, morale, juridique ou judiciaire, évidemment, lorsqu'il y a des droits à faire valoir. Et voilà, donc voilà comment se présente le RAVAD, et ça fait maintenant plus de 15 ans qu'il existe, et il est présidé par un avocat au barreau de Béthune, qui est bien connu, Jean-Bernard Geoffroy.
Alors on ne va pas se mentir, Philippe, on connaît bien nous le RAVAD, puisque non seulement j'ai participé à la création, mais nous, Quasar, sommes adhérents du RAVAD depuis des années. Alors, ce qui est nouveau au sein du RAVAD, avec la volonté de Jean-Bernard Geoffroy, c'est depuis l'année dernière, l'installation, la préparation de l'installation qui va être effective la 2022, d'un comité de réflexion. Il naît de quoi ce comité et qu'est-ce qu'il va faire exactement?
Alors, ce comité, en réalité, il est prévu depuis l'origine, c'est-à-dire depuis la création du RAVAD. Il était dans les statuts d'origine. Et simplement, au début, le RAVAD, il a fallu le constituer en tant que réseau, puisque c'est effectivement une association dont les adhérents sont soit des personnes physiques, mais surtout d'autres associations. Et par conséquent, le RAVAD ne s'est pas créé tout de suite, c'était quand même pas la priorité absolue, puisque c'est un comité de réflexion qui est consultatif, qui ne prend aucune décision, qui se saisit, ou qui est saisi. Normalement, d'ailleurs, les statuts prévoient qu'il est saisi par le président ou les autres instances du RAVAD. Et finalement, effectivement, sur l'instigation de Jean-Bernard Geoffroy, ce comité s'est créé. Il est d'ailleurs toujours en cours de création, parce que le nombre de membres, pour l'instant, on débute avec un effectif réduit. Il faut rôder les procédures, le réunir. Ce sont des réunions en plus en distanciel. Tout le monde de surcroît on a réparti dans toute la France et même à l'étranger. Et par conséquent, le comité a est venu en son temps, et effectivement sa constitution date de 2021, et elle va d'ailleurs se poursuivre cette année. Jean-Bernard m'avait demandé d'en prendre la responsabilité, ce que j'essaie de faire, en tout cas le mieux possible, et par conséquent, bah, déjà il faut le constituer, et puis ensuite le faire fonctionner, et comme vous l'avez dit, le comité ne s'est pas encore réuni, et sa première réunion, bah, pour le coup, c'est en accord avec Jean-Bernard, on a fixé effectivement un thème unique d'ailleurs, mais il est quand même extrêmement vaste, qui est donc l'extension de la PMA. D'ailleurs que cette opinion ou cette position évoluera ensuite, c'est de rendre des avis assez concrets et sur des réunions plutôt assez courtes, parce que beaucoup de membres sont évidemment des charges assez nombreuses, et il ne s'agit pas d'alourdir encore leur emploi du temps de manière excessive, mais d'être le plus efficace possible. Et d'ailleurs, a priori, en tout cas au début, l'idée sera quand même plutôt d'aborder des questions concrètes et non pas des questions trop générales. Et donc on s'est saisi, j'ai proposé de saisir le comité sur l'extension de la PMA, parce qu'évidemment c'est tout récent et qu'il y a des questions à se poser, effectivement, sur à la fois le fonctionnement de ce système et aussi d'un certain nombre de défauts hein, qui apparaissent.
Alors, Philippe Régnier, vous qui êtes professeur de droit, spécialiste du droit de la famille et donc l'animateur de ce comité de réflexion du RAVA, nous allons prendre 13 grandes minutes pour justement nous pencher sur les problématiques que l'extension de la PMA votée en 2021 pose, notamment sur la filiation, peut-être un aspect discriminatoire que vous allez nous évoquer, parler de ce comité décisionnaire, et puis d'un quatrième point très, très important qu'on a finalement peu ou jamais entendu, mais qui est quand même quelque chose qui, à mon avis, va marquer les esprits. Alors commençons par la filiation, si vous voulez. De votre point de vue, quelles sont les problématiques qu'on connaît déjà, mais je vous laisse les rappeler.
Oui, c'est une question qui a surgi avant même d'ailleurs les débats parlementaires, qui est que, comme vous le savez, le mode d'établissement de la filiation, dans le cas de couples de lesbiennes, c'est un mode particulier parce que il est fondé sur une reconnaissance anticipée conjointe. On a bien vu d'ailleurs l'évolution des débats parlementaires qui progressivement ont fait reculer en quelque sorte cette reconnaissance anticipée conjointe, puisque la femme qui accouche, elle, ça procédera d'un mode d'établissement classique de la filiation et non pas de la reconnaissance anticipée. La reconnaissance anticipée, elle va servir pour
la mère sociale.
Sa compagne.
C'est ça. Voilà.
Donc là-dessus, il y a c'est une question finalement relativement technique malgré tout, mais elle a une dimension symbolique évidemment parce que ça crée une différence là où qu'on aurait pu largement éviter, parce que les modes d'établissement de la filiation existants, moyennant certaines adaptations, absolument, auraient pu suffire.
C'est ça. Mais ce n'a pas été voulu comme tel, en tout cas pour l'instant. Non. Donc là, on parle bien de la filiation. On rappelle que dans d'autres cas, il faut passer par la case mariage pour pouvoir adopter l'enfant de sa compagne. Donc là, on est encore...
Alors ça, c'est autre chose. Hein, voilà. Parce que là, en tout cas pour l'établissement de la filiation par l'extension de la PMA, là, il n'y a pas de nécessité d'être marié, ni même taxé. Et donc... l'accès de ce point de vue-là est largement ouvert.
Voilà, donc c'était une différence qu'il fallait noter. Donc,
premier... Y compris d'ailleurs aux
femmes célibes, non mariées. Voilà, c'est ça, oui. Appelons-les non mariées, puisque c'est plus généraliste et plus clair dans la compréhension de la situation. Donc, premier point, la filiation, donc là vous l'avez expliqué. Deuxième point, vous parlez de discrimination. Alors, quelle serait la discrimination entre qui et qui, finalement?
Alors, parlons peut-être de risque de discrimination, oui. Qui serait justement d'un côté entre les couples de lesbiennes et de l'autre entre femmes célibataires et couples hétérosexuels stériles, je parle de manière un peu brutale, mais c'est cet ensemble-là qui est visé, pour lesquels, effectivement, tout le problème est de savoir si l'accès à la PMA sera accordé de la même manière, parce que il y a l'accès n'est pas libre en quelque sorte. Il y a quand même un accord qui doit être obtenu, il y a une autorisation qui doit être obtenue, et c'est celle-ci qui éventuellement peut susciter des difficultés. C'est une donc ça c'est un point qui est quand même important. C'est en effet l'accord pour suivre le parcours de la PMA. Alors, on sait que tantôt la loi parle d'AMP, tantôt elle parle de PMA. Bon, ça c'est un problème de vocabulaire, mais qu'on aurait à mon avis pu éliminer à l'occasion de cette réforme. Bien, il faut l'accord de l'équipe médicale clinico-biologique pour suivre le parcours d'AMP. La question est de savoir évidemment si tout le monde sera pesé à la même aune, ou jugé à la même aune. La loi, évidemment, le prévoit, interdit toute discrimination. Maintenant, la vérification d'une telle de l'existence ou de l'absence de discrimination sera extrêmement difficile à établir,
motiver,
à mener,
à établir, c'est
compliqué.
Ça. Ouais.
Il faudra des statistiques pour pouvoir le faire, et des statistiques centre par centre. C'est un travail qui peut être assez compliqué. C'est un peu cela que l'on craint, c'est que malgré tout, d'autant plus que vous savez, la discrimination, elle n'est pas forcément, c'est pas forcément une discrimination pensée, hein. Ça peut être une discrimination qui est totalement intégrée et intériorisée, et donc qui ne se manifeste pas de manière si aisément que cela.
Alors,
donc, ça c'est un véritable, c'est quand même un souci.
Alors, on note bien que c'est justement ça le paradoxe, c'est que avant la loi, il n'y avait pas cette situation où on passait par un comité et qu'il n'y avait pas de risque de refus. Aujourd'hui, il y a risque de refus, dont ce que vous expliquez, un risque d'un pouvoir discrétionnaire, un risque de discrimination dont on mettra beaucoup de temps, effectivement, à pouvoir éventuellement faire la preuve de cette réalité-là. Et puis, il y a un autre point. Alors là, découverte totale, je vous laisse le nommer et nous le présenter peut-être avec une introduction parce que ça va être violent.
Oui, pas tant que ça, mais c'est effectivement un point qui est important. Avant, je voudrais revenir sur un point, c'est tout à fait exact ce que vous avez dit, c'est-à-dire qu'avant la réforme, l'extension de la PMA, le texte, par exemple, ne prévoyait pas de possibilité de refus de la PMA, le texte antérieur à celui donc de 2021, alors que maintenant c'est inscrit effectivement dans le texte, et il y avait des hésitations chez les juristes pour interpréter cette lacune. Voilà, je ferme cette parenthèse.
Oui.
Alors maintenant on arrive effectivement à un point qui est un point sensible et qui est un point très délicat aussi à aborder, qui est que c'est le problème en fait de l'accès aux origines personnelles. L'accès aux origines personnelles, il a été conçu, bon, vous savez que c'est un accès qui peut être nominatif, c'est-à-dire qu'on peut connaître donc l'identité du donneur qui, dans la plupart des cas, sera donc un donneur de sperme, normalement un homme, et on peut avoir aujourd'hui des informations qui permettent de l'identifier. Hein. Mais pour le législateur, c'est un simple droit d'information. Ce n'est rien de plus qu'un droit d'information. En revanche, quand on regarde d'un petit peu plus près ce que cherchent les enfants issus de dons, on s'aperçoit qu'on n'est pas exactement sur la même longueur d'onde et que les enfants cherchent à connaître souvent non seulement le donneur, mais parfois aussi ce que l'on appelle les semi-frères et les semi-sœurs. Vous aviez dans la revue Parents 2018, Pierre Jouannet, qui était l'ancien président de la Fédération, enfin qui est l'ancien président de la Fédération française des Sécos, disait les personnes qui demandent à avoir accès à l'identité des donneurs ne cherchent pas juste la pièce manquante du puzzle. Quelque part, elles attendent plus que ça. Elles veulent établir un lien. Le problème, quelle est la nature du lien qui peut se construire entre le donneur et l'enfant? Et ça, le professeur Jouannet ajoute, quelle personne va-t-il impliquer au-delà du donneur, et notamment les fameux semi-frères et semi-sœurs? Et cet aspect-là, il a été complètement éludé par le législateur qui nous dit c'est un droit d'information, mais il est bien certain que dans un certain nombre de cas, les enfants issus de dons iront plus loin que l'information. Et là, rien n'est prévu. Et là, la difficulté qui se pose, alors elle est complexe, c'est de savoir justement, comme l'a posé très justement Pierre Jouannet, quel lien peut être établi. Et ça, c'est une, et notamment dans quelle mesure semi-frères et semi-sœurs peuvent entrer dans la famille de la famille notamment qui a été constituée par les deux mères et puis leurs enfants. Et comment peuvent-ils y rentrer ou pas? Ben, c'est, ils ne peuvent évidemment pas y rentrer en tant que frères et sœurs, en tout cas en l'état actuel du texte. Mais on a malheureusement des interrogations sur un phénomène qui n'a pas été évoqué pendant les débats parlementaires, que l'on appelle l'attraction sexuelle génétique, qui se manifeste lorsque des enfants qui ont été adoptés retrouvent leurs parents biologiques. Et là, on s'aperçoit que dans un certain nombre de cas, qu'il est évidemment difficile d'évaluer parce qu'on a très très peu de données statistiques sur cette question, eh bien, tombent amoureux les uns des autres. Ce qui est quand même gênant. Autrement dit, on nous dit les semi-frères et semi-sœurs n'entreront pas dans la famille qui a été constituée par le couple des lesbiennes et puis leurs enfants. En réalité, c'est beaucoup plus compliqué que cela, parce qu'ils peuvent y rentrer, et notamment ils peuvent y rentrer d'une manière assez étonnante par la voie du mariage, ou d'un pax ou l'autre, avec donc les enfants qui ont mené cette quête des origines. Et là-dessus, il y a rien d'abord sur l'attraction sexuelle génétique. Il y a en tout et pour tout une seule étude qui a été menée par deux psychiatres en 1995, deux psychiatres anglais qui y sont très connus et qui s'appellent Greenberg et Littlewood. Et puis c'est à peu près tout ce qu'on a. Et des statistiques, on n'en a pas. On ne connaît pas la fréquence du phénomène, mais il existe. On a un très grand nombre de cas d'espèces qui s'y rapportent. En tout cas, quand on est en matière d'adoption, et ce que l'on craint évidemment, c'est que cela se reproduise aussi dans l'hypothèse de familles qui se sont construites sur la base d'une PMA.
Donc, Philippe Régnier, ce qu'on est en train de dire et de découvrir, parce que ça, cette notion-là, personne n'en a jamais vraiment parlé, en tout cas scientifiquement, comme vous le faites posément, il ne s'agit pas d'être dans un jugement, juste de dire que cette question qui n'a pas été abordée et qui n'a pas été pensée, c'est bien ça la difficulté, cette, ce que vous appelez l'attraction sexuelle génétique, va poser des tas de questions dont les familles concernées ne sont pas informées. C'est bien cela.
C'est le fond de la difficulté. Dès lors que l'on sait, dès lors que l'on est prévenu, la question ne s'aborde pas de la même manière. On peut informer ses enfants et puis on peut l'anticiper. Mais si on est pris au dépourvu, là, ça peut être très compliqué à gérer comme situation. Cette attraction sexuelle génétique a en réalité probablement un fondement psychologique et qui est lié à la ressemblance. Il semblerait, parce qu'on a tellement peu d'éléments scientifiques dessus qu'il faut vraiment être prudent, plus on se ressemble et plus on risque d'être frappé par une sorte de coup de foudre. C'est un coup de foudre d'ailleurs. Et plus ou moins durable, plus ou moins perturbateur. Mais toujours est-il que cela peut se rencontrer. Étant donné que semi-frères et semi-sœurs ne se connaissent pas, si vous voulez, ils sont répartis un peu partout, ils peuvent tout à fait se rencontrer sans savoir qu'ils sont semi-frères et semi-sœurs et convoler en juste noces, se marier le cas échéant. Mais ça, c'est une question, effectivement, qu'il faut porter à la connaissance du public. Et rappelez-vous, les couples hétérosexuels pourront éviter ce problème parce qu'ils pourront toujours, en l'état actuel du droit, ils pourront toujours dire bah non, cher enfant, tu es né de nos œuvres communes.
Oui, sauf et l'enfant lui-même n'ira pas chercher ses origines. C'est cela, effectivement.
Disons que la probabilité est plus faible, mais pour les couples qui sont pour les couples d'élèves qui ont donc eu ces enfants, non, ça c'est pas possible, ça ne tient pas comme argument.
Philippe Régnier, je vous remercie vivement pour notre échange, c'est absolument passionnant, il faudra absolument que nous en reparlions. Nous quittons parce que l'émission s'achève, et en tout cas c'est promis, on vous réinvitera. Grand merci à vous.
Au revoir. Merci et très bonne soirée.
Merci, au revoir. Quasar Anzière s'achève, ça va très très vite, pas d'agenda, simplement pour vous rappeler notre Assemblée Générale, le samedi 29 janvier à 14h30, ce sera à la salle d'Avier. On remercie très chaleureusement nos trois invités, Dominique Ganaille, Raphaël Magnan et puis Philippe Régnier à l'instant, qui nous parlaient de PMA. Passez de bons moments, faites attention à vous, la bise, à dans 15 jours, au revoir.
Radio G, 101.5 FM. Yes.